Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il fut un temps que les moins de 17 ans ne peuvent pas connaître, un temps où le PSG n'était pas champion début avril et où l'identité du vainqueur n'était pas connue avant la dernière journée. Dans ce monde parallèle, la saison 2001-2002 reste peut-être dans la mémoire des amoureux de la D1 comme celle au scénario le plus fou de l'histoire du championnat. L'excitation d'une fin de saison ordinaire s'ajoute la dramaturgie d'une pièce de Shakespeare et un suspense à en faire pâlir Hitchcock himself. Pour en parler aujourd'hui, Hervé Matou. Bonjour Hervé. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce soir-là ?
Je pense que je devais faire jour de foot.
Exactement.
Je faisais jour de foot à l'époque.
Ouais. Exactement. Geoffroy Garrettier, vous étiez au match, Geoffroy ?
Non, je n'étais pas au match. J'étais comme très souvent pour la dernière journée devant le multiplex de Canal+.
Et un homme qui pour le coup était au match. Et il faut dire qu'il a été un acteur prépondérant de cette soirée, Sidney Govou. Merci d'être avec nous, Sidney.
De rien, bonjour.
À chaque sortie du calendrier de la saison, tous les supporters cochent des cases. Les Parisiens entourent les soirées des classicos, les Bordelais soulignent le soir de la venue de Marseillais maudits à l'Escure et les Lyonnais demandent à leurs amis stéphanois quand aura lieu le derby. Plaisanterie difficile à vivre pour des voisins qui végètent en D2. Mais cette année-là, plus la fin du championnat approche et plus Lyonnais et Lensois commencent à entourer le match de la dernière journée où ils doivent se rencontrer. À 5 journées de la fin de cette édition 2001-2002, Lens, leader, possède 6 points d'avance sur Lyon, deuxième, au moment où se profile un match très périlleux à Auxerre pour l'OL, un match dont se souvient bien Eric Carrière.
On a cravaché pour l'avoir cette finale. Je me rappelle de ce match à Auxerre, j'en reparle souvent avec Sidney, il marque un but à 91e, 92e.
Sidney.
Govou très très vite, la frappe et le but. Et le but pour l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou qui marque dans les arrêts de jeu.
Sidney, c'est de là qu'est partie la remontada lyonnaise, on n'utilisait pas encore le terme à l'époque.
Oui, ça a été un moment important, mais un peu avant, je pense. Il y en a eu quelques matchs aussi très difficiles avant. Je crois que Sony avait marqué un but à Bordeaux. On avait fait quelques calculs. Certains dans l'équipe étaient très très bons en calcul, donc ils avaient fait des calculs pour savoir le dernier match, comment il fallait qu'on arrive, à quel nombre de points, etc. C'était pas compliqué, mais on avait fait des calculs.
Le coup de génie de Jean-Michel Aulas, qui a plus ou moins essayé de faire la même chose cette année d'ailleurs avec le Lyon-Marseille. Et le coup de génie d'Aulas, c'est de assez vite donner au groupe lyonnais la perspective de cette finale. C'est-à-dire qu'il fait d'un objectif qui est quasiment impossible à atteindre, 7, 8 points, quelque chose d'atteignable en disant il y a, en enlevant 3 points en fait. Donc voilà, et je pense que quand les Lyonnais, peut-être que Sidney va nous le confirmer, quand ils arrivent dans ce match décisif, quelque part, ils ont déjà gagné, parce qu'ils ont gagné le droit de jouer une finale qu'ils n'auraient pas dû jouer d'habitude. Et donc, ça donne une dynamique à Lyon très supérieure à celle de Lens.
Geoffroy.
J'aime toujours remettre en perspective, et la perspective, elle nous renvoie 15 ans en arrière. Alors, je vais faire vite, hein, Paul, évidemment. Mais Jean-Michel Aulas, il est devenu le patron de l'OL en juin 87. Et donc là, on est sur une lente ascension.
Et Lyon est en D2.
Et Lyon est en D2, effectivement. Lyon monte en D1 en 89, et on est sur une lente ascension qui va prendre 10 ans avant de se concrétiser. Et là, Lyon fait 3e en 99, 3e en 2000, 2e en 2001, juste battu par le sprint fou des Nantais. Et donc 2002, là, c'est la première saison où vraiment Lyon est en capacité de jouer ce pour lequel il a été programmé, c'est-à-dire le titre.
L'OL gagne 3 fois lors des 4 dernières journées, lors des 4 journées suivantes, tandis que Lens marque le pas, les voilà désormais séparés d'un seul petit point à un match de la fin. Le duel aura bien lieu.
Jamais les deux candidats au titre ne se sont rencontrés lors de l'ultime journée du championnat de France.
On entend la voix de Thierry Gilardi au moment où s'ouvre ce multiplex de la dernière journée, la 34e. Hervé, vous étiez à Canal, vous apprêtiez à vivre ce moment historique. Elle était comment l'ambiance des gens qui allaient travailler sur cette soirée ?
Alors là, franchement, aucune idée.
Merci.
Non, mais j'imagine qu'on était excités par ce scénario, voilà, parce que la dernière journée, le multiplex, c'est quelque chose qui mobilisait toute la rédaction, parce qu'il fallait un commentateur sur chacun des matchs pour le multiplex, un commentateur sur chacun des matchs pour le match lui-même. Donc c'était voilà, quelque chose d'assez énorme. Et puis il y avait effectivement la chance d'avoir ce scénario de cette finale. C'est quelque chose qui nous rend nostalgique. Hein, quand j'ai revu le match hier, quand on pense à la manière dont les titres sont distribués aujourd'hui, on en rêve quoi, de finale comme ça.
Sidney, vous étiez comment, vous, les Lyonnais d'abord, et puis vous ensuite à quelques minutes de jouer cette rencontre?
Honnêtement, on était serein. Enfin, on peut pas être sûr. On est sûr après coup quand on se dit voilà, on a gagné. Mais avant le match, en termes de préparation, en termes de motivation, on était serein. Enfin, ce match-là, on pouvait pas le perdre, comme dit Hervé. Tout était fait pour qu'on le gagne à domicile, pour qu'on devienne champion pour la première fois.
Dans le couloir qui mène au terrain, les visages se ferment, même ceux d'ordinaire si joviaux de Laurent Paganelli et de Grégory Coupet, le gardien rodanien.
On peut jouer un match comme ça ou on doit jouer un match comme ça sans penser aux conséquences du résultat?
Les conséquences, elles peuvent être que magnifiques. Quoi qu'il arrive, on a la Champions League, donc il n'y a qu'à jouer. Hein. Je pense que c'est que du positif. Vous savez, j'ai joué déjà la relégation. Ce soir, je pense que Metz, Lorient, Guingamp, ils doivent avoir beaucoup plus de pression que nous.
Il ne pense pas ce qu'il dit, là, Grégory.
Vous lui posez la question. En tout cas, nous, non. Quand tu joues à une finale à domicile pour le premier titre, oui, les conséquences peuvent être dramatiques, ouais. Même s'il y a Ligue des Champions derrière. Le but, c'est d'être champion, Geoffroy.
Il y a une ambiance au moment où il dit ça qui est juste incroyable. Il faut remonter quelques journées avant. Je crois que Lyon perd à la 29e journée contre Lille, me semble-t-il.
1-0, là-bas.
Voilà. Et je me souviens qu'il y a une banderole dans le public. On est des bouffons, on ne sera jamais champion. Et en fait, parce que Lyon n'a effectivement jamais été champion, parce qu'il s'apprête à vivre une nouvelle désillusion, mais quelque part, c'est une sorte d'exorcisme. Et au moment où donc Paga et Coupé échangent ces mots, le stade est en train de trembler sur ses bases.
C'est vrai qu'il faut mettre ça en perspective. Aujourd'hui, on le lit comme le premier titre des 7 de l'Olympique Lyonnais. À ce moment-là, quelques heures avant le match, ils sont à zéro. Le bilan, le palmarès de Lyon, c'est pas loin d'être celui de Rennes avant la finale de Coupe de France il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue la saison d'avant. Mais sinon, ils sont encore, je pense...
Il y a 3 Coupes de France avant.
Oui,
contre deux arènes,
qui sont très vieilles, comme celle de Rennes qui datait. Donc, c'est-à-dire que Lyon, quelque part, est encore dans le complexe stéphanois, même si la Saint-Etienne est en D2. Lyon est encore à la banlieue de Saint-Etienne, comme l'avait dit Rocher. Donc, voilà, il faut se rendre compte qu'il y a une forme de fébrilité, quand même, de ce club qui se dit on a à portée de main quelque chose qui sera historique.
Bien sûr, Coupet dédramatise, mais il le sait, Lyon est à un carrefour de son histoire. Quoi de plus beau que d'accrocher le premier titre de champion au palmarès lors d'une finale et dans un stade gerland, vous en parliez, Geoffroy, chauffé à blanc.
Je me souviens quand on est arrivé, rentré dans le vestiaire. Honnêtement, c'est pas... Le stade, il vibrait.
Tout est différent, tout est plus intense surtout. C'est-à-dire, quand ils chantent qu'il ne saute pas n'est pas lyonnais, là les gens sautent 10 cm plus haut. Donc les tribunes, c'est une vague, ça bouge, c'est terrible.
Vous avez reconnu David Linares qui parlait juste avant avec Grégory Coupet de l'ambiance. Racontez-nous cette ambiance, Sidney, comment c'était?
C'était extraordinaire, comme le dit David et Greg par la suite. C'est des moments que j'oublierai jamais. J'avais jamais vu le stade dans cette ambiance-là. Malgré le temps, parce qu'il avait plu toute la journée, malgré rien en fait, c'était vraiment magnifique. J'ai même en Ligue des Champions, même dans des grands rendez-vous, j'avais jamais senti le stade comme ça. Et quand on rentre sur le terrain à ce moment-là, moi franchement, j'étais tellement heureux de jouer ce match-là que ça a décuplé ma force entre guillemets.
On est à quelques secondes de l'entrée justement des joueurs sur la pelouse de Gerland.
L'entrée des deux équipes et l'ambiance exceptionnelle qui s'annonce à la sortie de ces gladiateurs.
L'arène est belle, pas de sable fin du Colisée, mais la pelouse de Gerland légèrement mouillée, vous en avez parlé, Sidney, par l'averse qui s'est abattue en début de soirée sur la capitale des Gaules. En tribune, 42 000 spectateurs trépignent, les plus anciens se languissent de titres de champion depuis 52 ans. Alors, qu'est-ce que 90 minutes quand on attend depuis un demi-siècle?
Les regards qu'on a, nous, entre nous, l'adrénaline que l'on a, et leur regard à eux. On sentait qu'ils avaient quelque part tout à perdre.
ils sont sûrs, les Lyonnais, de gagner.
C'est coupé, là, encore.
C'est Greg Schiavone qui parle.
Bah, c'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique. Il faut quand même rappeler, on ne l'a pas encore fait, mais que Lens a été leader 28 journées. 28 journées, Lyon, une journée.
Sur 34 à l'époque.
Sur 34. Ouais. Lyon a été leader, je crois, à l'issue de la 9e journée. Et donc, il y a une dynamique. Ils ont eu beaucoup d'avance, les Lensois. Ils ont pris, j'ai regardé, ils ont pris 2 points sur 12 possibles sur les matchs qui précèdent. Donc, ils sont... Voilà, ils perdent, ils ont vu Lyon débouler derrière dans un sprint. Et effectivement, la dynamique, elle est lyonnaise. Et je pense que les Lensois, même s'ils ont pour avantage de pouvoir dire un nul nous suffit, quelque part, ils savent qu'ils se sont mis dans la mouise tout seuls.
Geoffroy.
C'est souvent dans l'histoire du foot français, en tout cas avant que Lyon puis Paris ne dominent sur des longues périodes, le champion, c'est celui qui sprint le plus fort. Ça se joue, j'ai envie de dire, à la flamme rouge. Et à la flamme rouge, c'est Lyon qui va être le meilleur. Lyon, sur les 10 dernières journées, prend 20 points et Lens seulement 12. Donc ben voilà, vous calculez la différence. Lens a faibli. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a toujours des éléments de destin qui sont forts et qu'on retient finalement. C'est que ce que les Lensois donc, vont vivre pendant ce match... 3 d'entre eux l'ont déjà vécu 4 ans avant.
Joël Muller.
Avec Metz, Joël Muller, Jocelyn Blanchard et Bruno Rodriguez, quand ils perdent le titre à la dernière journée, à la différence de but, contre Lens pour le coup, en 98. Voilà. Et il y a donc cette malédiction dont ils ne vont pas réussir à se défaire, et on va le voir avec le scénario du match.
Le tumulte de Gerland est assourdissant. L'OL a décidé d'exercer une pression insoutenable sur des Nordistes qui reculent de plus en plus. Jusque-là éteint par Adama Koulibaly, Sidney Govou gagne alors un premier duel.
Ce duel entre Sidney Govou et Adama Koulibaly, il est passé. Cette fois-ci, Sidney Govou évite le tacle. La frappe et l'ouverture du score de Sidney Govou après 7 minutes en première période. Oh, il n'a pas pu aller chercher ce ballon, Guillaume Darmuse. Et pour la première fois, après avoir gagné son duel, après avoir accéléré, Sidney Govou fait la différence pour l'instant après 7 minutes. C'est Lyon provisoirement qui est champion de France.
Sidney, vous vous en souvenez? Est-ce que vous revoyez l'image au moment où on entend Grégoire Margoton commenter ce but?
J'ai souvent revu, du coup j'ai vraiment bien en tête. Ouais, c'est mon jeu. Après, moi, je suis quelqu'un qui provoque. Même si je suis loin et que je tente une frappe à la base, je suis pas censé frapper d'aussi loin. Je frappe rarement d'aussi loin. Là, c'est dans l'action. Une fois que je passe devant, une fois que mon corps est passé, j'enchaîne. En plus, je sais que ça a effusé. J'en avais beaucoup parlé avec Joe Batz, qui était quelqu'un qui était très important dans ma carrière, qui m'avait dit « frappe de loin, tu verras, ça fuse, c'est compliqué pour les gardiens ».
Quand on voit le but de Sidney, du plan large, on va dire, et c'est comme ça qu'on le revoit furtivement, on se dit « Varmuse, il est nul, enfin, qu'est-ce qu'il fait ?» Enfin, honnêtement, il ne doit jamais prendre ce but. Alors, c'est vrai que j'ai regardé le match plus précisément, et on se rend compte que la pluie dont vous parliez a joué un rôle, hein, puisque... Son pied d'appui glisse complètement et c'est ce qui fait qu'il ne part pas en fait, sur ce ballon qu'il aurait pu assez facilement sortir s'il n'avait pas fait cette erreur, mais dû à un problème de cramponnage apparemment.
Il y a le problème de l'appui, mais quand on revoit le but, le but il est loin d'être fait. Il y a un duel vraiment presque énorme avec Koulibaly, le défenseur lensois. D'abord, Sidney... le dribble. Après
parce qu'en plus, Koulibaly, depuis le début du match, avait réussi à contenir.
Ensuite, échappe à sa charge. Koulibaly revient pour le tacler. Ben non, il n'y arrive pas. Et Sidney s'arrache pour aller marquer.
Lyon est devant. Tout se déroule comme dans un rêve pour les Gones, dont l'étreinte n'a toujours pas relâché. Des Lensois sonnés.
Govou qui réussit à glisser ce ballon à Sonny Anderson, pas de hors-jeu pour Pierre Legge qui va pouvoir avancer dans la surface de réparation lensoise et centrer fort devant le but au second poteau Violot. Le deuxième but inscrit par Philippe Violot, 14e minute de cette première période. Oh, ça sent mauvais malheureusement pour les Lensois actuellement et ça sent bon pour les Lyonnais.
Et là, quand on voit le but en plan large, on se dit, Varmuse, il est nul.
Les réalisateurs le voient ralenti.
On se dit, oui, effectivement, il est nul quand même.
Il reçoit demain.
Les réalisateurs aujourd'hui, Hervé Matou. Sidney, c'est un début de match incroyable de la part de l'OL.
Oui, de toute façon, on le savait, on devait gagner. On n'avait pas le choix, on devait gagner. On n'était pas une équipe, on savait pas trop calculer. Parce qu'offensivement, je pense qu'on avait des armes, on allait très vite vers l'avant. Donc on s'était dit, voilà, c'est à domicile. Si on les étouffe d'entrée, il y a peu de chances pour qu'ils puissent l'emporter ici.
Moi, je me suis interrogé, Sidney, en voyant le match et votre détermination qui était énorme. Vous aviez la rage. Et je me suis demandé qui vous a transmis cette rage. Parce que Jacques Santini n'était pas un grand expansif. Le président Ola, c'était quand même dans son rôle. Donc, comment vous êtes conditionné pour être justement aussi, j'ai envie de dire, aussi, d'avoir cette grinta, ouais.
On a fait un peu ce que tous les clubs font en fin de saison. On a eu une petite vidéo des familles à la mise au vert. Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est commun, mais vraiment, c'est parce qu'on avait une équipe de joueurs déterminés. On avait une équipe de guerriers. On n'avait pas forcément une équipe de grands joueurs. On n'avait pas les plus grands techniciens, etc. Mais au niveau de l'agnac, au niveau de l'envie, moi, quand je vois des Fifi Velo, des Tov Delmotte, etc., c'est des joueurs qui te portaient, qui te donnaient envie. Et moi, j'étais le petit jeune au milieu de tout ça. Forcément, on n'a pas envie de décevoir.
Il y a quand même un effectif très costaud, oui, dans cette équipe de l'OL.
On est athlétique.
Ouais, mais je veux dire, même en qualité pure, quand on regarde, y compris les joueurs qui ne sont pas dans ce match, Edmilson, international brésilien, peut-être qu'il ne l'est pas international à ce moment-là, il était déjà. Ouais. Il n'est même pas sur la feuille. Eric De Flandre, international belge, il n'est pas sur la feuille.
Juninho est titulaire, Eric Carrière entre en jeu.
Voilà, non, il y a Anderson. Quand même, c'est quand même un des tout meilleurs effectifs de France, quoi.
Après 14 minutes, le parfum d'un premier titre commence à embaumer Gerland et Lyon. Rien ne semble pouvoir ralentir l'OL, lancé sur l'autoroute d'un succès historique. Insouciance pour les uns, arrogance pour les autres sur le banc lyonnais. Votre ami, Sidney Peggy Louindela, n'a même pas la prudence du discours aseptisé des joueurs superstitieux lorsqu'on lui demande si l'on peut revenir.
Difficile à dire parce qu'on contrôle jamais rien dans le football, mais non, je pense pas. Mais bon, il faut rester vigilant.
Ça va dans le sens en fait de tout ce qu'on entend depuis le début avec cette confiance.
C'est à la 20e minute, c'est à la 20e minute du match.
25e minute de jeu.
Le match, on l'attend depuis tellement longtemps que c'est pas possible de le laisser passer à domicile. C'est à l'extérieur, c'est un autre contexte, mais à domicile, c'était impossible. On savait, avant le match. Alors oui, on peut pas le dire haut et fort et le crier, mais non, c'est facile une fois qu'on a gagné. Mais honnêtement, on voyait pas comment on pouvait perdre ce match à domicile.
Ils restent vigilants, les Lyonnais, car le deuxième but des hommes de Jacques Santini a paradoxalement redonné vie à Lens. Oublier la frilosité du début de match, sûrement liée à la peur de tout perdre lors de la dernière journée. Non, désormais, pour être champion, il faut jouer, se découvrir et marquer deux fois.
Pedro, Sibierski au second poteau, il y a aussi Colli. Et la reprise de Jacek Bak. Le Polonais l'avait promis, il allait marquer à l'Olympique Lyonnais, il allait marquer face à ses anciens coéquipiers à Gerland. Ça devient titanesque, 2-1.
Là encore, on voit combien le foot a évolué, parce que Jacek Bak, on rappelle, il a commencé la saison avec l'OL, il a même marqué un but pour Lyon à Bastia, et pourtant, avant la rencontre, il avait promis au Lensois de marquer contre son ancienne équipe à l'heure où aujourd'hui...
Ça pourrait arriver, non ? Parce qu'il était parti, parce qu'il jouait pas, il aurait
une clause pour qu'il joue pas.
Il y avait un accord. Non, mais je crois qu'il y avait un accord verbal pour qu'il ne joue pas. Et comme, évidemment, c'est la finale et que Lens veut avoir ses meilleurs joueurs...
Vous avancez, vous avez des documents, là,
non,
monsieur
Non, je l'ai lu. Alors peut-être que ma lecture est sur des faits erronés. Non, je l'ai lu, je rêve... Rarement de ça quand même. Hervé, tout de même, je sais que je suis fou, mais pas à ce point-là. Mais l'histoire de Bak est elle-même très, très belle. Donc il a passé 6 ans et demi à Lyon avant d'être transféré à Lens. Et il est quand même considéré comme étant champion de France puisqu'il a joué un match pour Lyon début de saison.
Mais je pense qu'il aurait préféré l'être avec Lens.
Ah, mais bien sûr.
Mais est-ce que vous commencez à douter, Sidney, à ce moment-là ? On joue à la 25e, 30e minute de jeu. Lens revient et vous commencez à reculer.
Douter, non, parce que comme je le dis, ce match-là ne pouvait pas nous échapper. Après, forcément, quand tu prends un but, tu te dis bon, on va essayer de se remettre à l'endroit parce qu'on a eu une période un peu compliquée dans ce match-là. Mais c'est de la même manière. Je pense qu'on avait des joueurs qui avaient pas mal d'expérience. Bon, ils ne savaient pas gérer ces moments-là parce qu'on le gère peut-être qu'une fois dans sa carrière, mais l'expérience de certains joueurs fait qu'à un moment donné, tu arrives à passer à ce niveau d'incertitude.
Il ne manque plus qu'un but à Lens pour décrocher un deuxième titre de champion de France. Sur le banc, Bruno Rodriguez, vous l'avez dit Geoffroy, qui 4 ans plus tôt avait déjà perdu le titre lors de la dernière journée avec Metz, a repris espoir.
Je crois qu'on a mal débuté notre partie, on encaisse deux buts d'entrée de jeu. Je crois qu'on a bien réagi et puis là on a marqué ce but par Jacek. Je crois qu'il faut continuer comme on est en train de le faire et ça va payer.
On sent quand même qu'ils reprennent espoir, les Lensois, Geoffroy.
Non, mais le climat de ce match et le climat dans le ciel laisse imaginer que tout est possible. Parce que la pluie qui redouble rend le terrain très glissant. On voit que la maîtrise technique est plus difficile à avoir. Et je comprends que lorsque Rodriguez dit ça, il reste encore une heure de jeu.
Ouais,
donc il est possible de revenir.
Il y a un autre élément, c'est qu'une finale comme ça, aussi importante, on peut imaginer que le match va être fermé, etc. Là, on est sur un match qui a eu 3 buts en 20 minutes, quoi, ouais. Et avec 2 buts de Lyon dans le premier quart d'heure. Donc on est parti sur un scénario plausible d'un match un peu fou qui part dans tous les sens.
Le scénario a changé. Perdu entre l'envie de défendre, le nul et d'attaquer, Lens a été puni en début de rencontre. À la mi-temps, Valérien Ismaël s'en est rendu compte. C'est désormais Lyon qui hésite entre jouer pour marquer un troisième but et conserver cet avantage qui lui donne provisoirement le titre.
Finalement, quand on réfléchit bien, c'est peut-être une bonne solution parce qu'on voit que les Lyonnais ne savent pas quoi faire entre défendre et attaquer. Donc on va essayer de garder le score comme ça 2-1 puis on va jeter toutes nos forces dans les dernières minutes.
On a quand même la sensation et l'impression que l'équipe qui attaque ce soir risque de gagner et d'être champion de France.
Voilà, vous avez bien résumé, il y a un titre de champion au bout, je crois qu'il faut tout donner. La rencontre est à l'air, je crois que maintenant c'est à nous de forcer le petit destin.
Sidney, vous vous dites quoi? Est-ce que vous vous en souvenez de cette mi-temps, les mots des uns, des autres, de Jacques Santini?
Je me souviens bien d'ailleurs, c'est surtout, je crois que c'était Angelo Hugues qui était un gardien remplaçant, qui me dit à un moment donné, avant de rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps, il me dit écoute-moi bien. T'occupe pas de ce qui se passe autour, prends le ballon, vas-y tout seul. Continue, fais les reculer, parce que si on commence à jouer dans le milieu de terrain, on peut être en danger. Moi, je lui dis, Angelo, de toute façon, c'est ce que je sais faire, donc t'inquiète pas, c'est ce que j'allais faire.
C'était fort tactiquement. Hein.
C'est ce que j'allais faire.
Mais comment donc reprendre le fil du match pour l'OL? Comment de nouveau éteindre des Lensois transfigurés? Sûrement pas en laissant Daniel Moreira filer.
La tête de Jean-Guy Wallem, Colli. Diouf, oh il est passé, il est passé Daniel Moreira alors que Patrick Müller a glissé, oh l'égalisation pour Moreira, oh il a poussé trop loin son ballon, et il n'y a pas de faute de Jérémy Bréchet, quelle occasion gâchée par les Lensois.
Il n'a pas poussé très long, hein. C'est qu'en non, fait non, il non. a voulu rajouter, voilà.
Voilà, il a voulu complètement déstabiliser Bréchet.
C'est marrant comme l'histoire retient des actions et en oublie d'autres.
Oui,
parce que cette action, je l'avais totalement oubliée, comme tout le monde autour de cette
table. Vous n'êtes pas le seul.
Et je l'ai revue. Et alors vraiment, moi je pense qu'il y a faute, quoi, qu'il y a un penalty, mais il le découpe, Moreira. Et il y a un espèce d'embryon de ralenti qui part, et puis il y a une contre-attaque lyonnaise qui fait qu'on est reparti sur une action lyonnaise, et on n'y revient pas. Et les deux commentateurs, Olivier Rouillet et Grégoire Margoton, ont dit « Ah oui, vraiment très très propre cette intervention ». Je ne suis pas sûr qu'elle soit...
C'est limite.
Ah ouais, non, franchement, je pense que... Peut-être il touche un petit peu le ballon.
En premier,
du boom. Alors derrière, il découpe Moreira.
On rappelle qu'en 2002, il n'y avait pas la VAR, Hervé.
Ouais.
Vous avez cru au pénalty à ce moment-là sur le terrain, Sidney?
Je ne me rappelle pas du tout. Honnêtement, je ne me souviens pas du tout de cette action. Mais c'est véridique. Hein.
Ouais. Joël Muller, l'entraîneur lensois, avait prédit avant la rencontre que Lyon mènerait 2-0 et que Lens reviendrait dans la partie et arracherait le nul du champion dans les arrêts de jeu. 5 minutes après la pause, une petite musique retentit, celle qui plonge les téléspectateurs dans un vertige immense, entre l'attente d'exulter et la peur de voir un rêve de titre s'envoler.
Ouais, but à Lyon, but de Pierre Laigle, l'ancien ch'timi vient crucifier les siens peut-être.
C'était dans le multiplex qu'ils ont raté ce but en fait. Hein. Ouais, ils étaient ailleurs, effectivement. Alors c'est un but assez moche. Hein. L'action est très belle. Au début, Juninho fait
le décalage.
Ça, c'est superbe. Et revoir ce match m'a permis de voir. Quel joueur était Juninho? C'est sa première saison à Lyon, donc il n'est pas encore dans la plénitude de son talent, mais il est quand même très très fort.
Il commence par un double contact au début.
Exactement,
de l'action.
Exactement, pied droit, pied gauche, il passe, il donne à Laigle, Laigle frappe. Et alors, c'est un but hautement symbolique, parce que Laigle a passé 15 ans à Lens, il frappe, ballon détourné par Wallem, qui joue le dernier match de sa carrière, qui est l'incarnation du Racing Club de Lens, qui me prend un contre-pied finalement Varmus, enfin qui le lobe.
Il a passé 15 ans à Lens, Pierre Laigle, mais il est parti la mauvaise année. Il est parti en 97. Pour aller jouer à la Sampdoria, l'année où Lens va être champion. Mmh. Donc lui, cette histoire-là, elle n'est pas écrite en lui, et je comprends qu'il soit doublement motivé. Il faut juste, quand on revoit le but de
l'homme de rendez-vous manqué, décidément.
Oui, exactement, parce que, bien sûr, voilà. Il faisait partie de la liste des 6 qui avait été renvoyée par Aimé Jacquet de Clairefontaine, juste avant la Coupe du Monde de foot. Et le but de l'Aigle, c'est encore un but qui n'est pas quand je dis pas propre, c'est-à-dire qu'il y a une, il est dévié du coup, Varmus et Lobé. Et finalement, sur les quatre buts de ce match, seul le but de Sidney Govou, le premier but, est un but
il y a la glissade.
Rapide.
Ah, il y a la glissade.
Il y a la glissade, mais
le jeu, le, voilà, jeu, le jeu appelle les erreurs.
Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, et surtout, ce terrain très glissant. Ouais, bref, mais ce soir, ça rigolait pour Lyon. C'était écrit que Lyon devait être champion.
On l'a pas dit, mais Bach, le but de Bach, effectivement, est détourné. Ouais. Hein, c'est ce voilà. qui permet
Brécher, je crois.
Brécher, ouais.
On est à la 52e minute. Est-ce qu'à ce moment-là, Sidney, vous savez que vous êtes champion de France ?
Oui. Oui, mais je me répète tout le temps, même depuis le début, moi, c'est pas sorti. On devait être champion, on allait le faire. Mais là, oui, ça sent vraiment bon. 3-1, à domicile, 50 et quelques minutes. On ne voit pas comment ils peuvent nous rattraper. Surtout que je pense qu'à ce moment-là, justement, notre expérience, entre guillemets, fait la différence.
L'enfant du Nord, donc Pierre Legge, qui a joué 15 ans, vous le disiez à Lens, donne à ce moment-là deux buts d'avance à Lyon. L'OL tient. Et vous, Sidney, vous sortez exténué par une rencontre que vous avez survolée.
C'est un public debout pour Sidney Govou, qui a inscrit 10 buts cette saison, plus 6 passes décisives. Grand, grand match de Sidney Govou.
À quoi est-ce que vous pensez à ce moment-là ?
Je regarde mes potes qui sont dans la tribune, qui sont stéphanois, mais comme c'est mes amis, ils sont là. Donc j'ai une grosse pensée pour eux à ce moment-là, c'est vrai en plus.
Et Sidney, dans ta galerie personnelle de souvenirs, c'est dans les quoi ? Les deux, trois meilleurs, celui-là ?
J'ai dit c'est le meilleur souvenir parce que c'est le premier titre, parce que c'est mon premier titre que j'ai vraiment vécu, parce qu'il y a la Coupe de la Ligue l'année d'avant, mais j'étais pas spécialement titulaire. Et là, c'est un titre de champion, c'est à domicile. Tout est fait pour que ça soit magnifique.
Tu marques le premier but.
Je marque en plus.
C'est plus fort que la volée contre l'Italie avec l'équipe de France. C'est plus fort que ce doublé-là.
Oui, c'est plus fort.
C'est un match amical, France-Italie.
Non, c'est un match qualificatif pour l'Euro. Mais c'est différent. Là, c'est l'aboutissement d'une saison. C'est une saison, ouais. C'est le dernier match d'une saison. Donc en termes d'émotion, c'est plus important.
Un mot quand même pour notre ami, allez-y. Consultant, Eric Carrière, qui est donc rentré dans ce match, qui revient de blessure, hein, plus ou moins. Il s'est blessé quelques semaines auparavant, ouais. Et il a passé une sale semaine puisqu'il vient d'apprendre qu'il ne fera pas la Coupe du Monde. Il n'est pas retenu par Roger Lemaire pour la Coupe du Monde au Japon et en Corée. Et c'est Miku qui lui est préféré comme remplaçant, on va dire, de Zidane. Et puis là, il est remplaçant sur ce match-là, décisif. Donc, voilà. Mais je l'ai eu au téléphone, Eric, pour lui partager un peu son ressenti. Il m'a dit qu'il n'était pas très déçu. Enfin, voilà, la Coupe du Monde, il s'en était fait une raison. Et puis, il était déjà très collectif. Donc, il avait accepté
la titularisation de l'équipe.
Et à ce moment-là, il remplace Juninho à 20 minutes de la fin, vous savez. On vous a demandé à quoi vous pensiez à ce moment-là. Et bien, ce jour-là, Laurent Paganini aussi, vous l'avez demandé.
Vous êtes jeune, vous. Quelle émotion vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous regardez la montre, vous regardez le jeu. À quoi vous pensez exactement?
À tout en même temps, à tout ce qu'on peut gagner. Il ne reste plus que 6-7 minutes et j'espère qu'on va décrocher ce titre.
À l'époque, Laurent Paganini faisait aussi des questions à rallonge.
Des réponses très courtes.
Des réponses très courtes de Sidney Govou. C'est un match parfait pour consacrer une équipe pour la première fois dans une carrière.
Il n'ose pas dire que c'est fait quand même. Hein. Il ment quand même. Hein. Il dit pas.
Ouais, on l'entend rigoler. Ouais. On l'entend rigoler.
Je suis jeune, je peux pas me faire juste comme ça.
Non, mais c'est toujours très intéressant de revoir ça avec le recul, parce que ce que Sidney peut pas savoir à ce moment-là, c'est qu'il y a 6 titres qui vont suivre, et que c'est donc le premier d'un règne. Le plus long et le plus incroyable règne de l'histoire du foot français, parce que aucun club n'avait gagné plus de 4 titres consécutifs. Allez, Marseillais diront 5, mais le titre de 93 n'a pas été validé. Donc là, on est au début d'une vraie période faste pour l'OL, qui va dominer sans partage le foot français pendant 7 ans.
Et honnêtement, personne ne le pressent dans cette mesure-là, en tout cas.
Pas du tout.
Lyon tient jusqu'à la consécration.
C'est fini ! C'est fini ! Pour la première fois dans son histoire, l'Olympique Lyonnais est champion de France !
Ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est un dépucelage en fait. Hein. C'est un truc, on s'en rend compte, on peut plus s'en rendre compte aujourd'hui. Voilà. Comment Lyon met fin à 50 ans d'attente, même s'ils n'ont pas vraiment visé le titre de champion tout au long de ces années-là, bien sûr. Mais voilà, c'est la malédiction de la domination de Saint-Étienne qui tombe. Voilà, c'est enfin on rentre à la table des clubs champions de France. Quoi.
Vous arrivez à le mesurer, ça, Sidney, au coup de sifflet final ?
Oui, 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 parce que quand tu vois certaines personnes, dont Jacques Santini, des joueurs fondre en larmes, tu te dis, ouais, il se passe un truc extraordinaire. Le président, Bernard Lacombe, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors moi, j'étais fan de foot, donc j'avais pas non plus ça dans ma tête, mais quand je vois des personnes qui le sont beaucoup plus que moi à cette période-là, voir l'émotion que ça leur apporte, voir les supporters aussi, tu te dis, ouais, t'as marqué l'histoire d'un club, quoi qu'il en soit.
Chacun a apporté sa pierre, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le titre de ceux qui sont sur le terrain, et Jacques Santini qui est sur le banc, c'est tous ceux qui sont là depuis que Lyon est remonté en D1, et que Jean-Michel Aulas a quelque part employé, a fait venir Raymond Domenech, Jean Tigana, avec lequel le club est deuxième en 95. Il y a eu Guy Stéphane, il y a Bernard Lacombe qui entraîne pendant 3 ans et demi, et puis c'est l'aboutissement, c'est vraiment l'aboutissement. C'est pas juste un one shot. C'est pour ça d'ailleurs que Lyon va régner et que Lyon est toujours là aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une stratégie, il y a eu une vraie cathédrale, on peut le dire, du sport français qui a été construite pierre à pierre.
Vous parliez tout à l'heure d'Éric Carrière, il est entré en jeu. Lui, le néo-lyonnais qui était à Nantes la saison précédente et qui enchaîne après avoir été champion la saison d'avant.
On a eu des moments difficiles, même à l'intérieur de ce match-là, par moments c'était chaud. On s'est arraché, on voit bien qu'il y a vraiment un groupe super à Lyon.
Quelle a été justement cette force de Lyon d'y croire à un moment, d'être patient et peut-être aussi d'avoir été relancé par Lens quand il le fallait?
Oui, oui, il ne faut pas s'en cacher. Lens a fait quelques faux pas, on a su en profiter. Bon, notre force a été vraiment mentale, d'y croire jusqu'au bout, croire en nos qualités.
En tous les cas, le public, c'est vrai, on le sait, exigeant, mais il a quand même été présent tout le temps. Hein.
Ouais, ils vont nous dire qu'ils ont raison d'être exigeants maintenant.
On sent déjà Éric Carrière, la patte du consultant d'aujourd'hui.
Ouais, non, c'est sûr. Et puis il rappelle quand même que la saison n'avait pas été si douce que ça. Hein. Il y avait eu des moments de flottement avec le public, puisque Lyon avait enchaîné, comme on l'a dit, des accessites, deuxième place, troisième place, et certains supporters commençaient à s'impatienter. Et il y avait eu des moments, des mauvaises séries. Voilà, c'était une saison faite de haut et de bas, quoi, avant de se terminer en apothéose.
Vous vous étiez fait un peu balloter cette saison par les supporters, il en parle, Éric Carrière, Sydney.
Oui, oui, alors pas en championnat, en Coupe de France, parce qu'on avait des éliminations assez précoces en Coupe de France, ça avait été un peu chaud du côté de Tolaloge. Et après aussi, même pendant la saison, on a dû perdre un match à l'extérieur, on était rentré au camp de Tolaloge aussi, ça avait été un peu tendu.
Les fameux bouffons.
Oui, mais la force justement de cette équipe-là et du président, surtout à un moment donné, c'est que il avait ça dans la tête, il nous l'a mis dans la tête, et il a embarqué tout le monde avec lui, que ce soit nous, ou même au moment les supporters où c'était plus compliqué. Je pense que ça a été vraiment une force tout au long de la saison.
Oui, il a eu, enfin, Jean-Michel Aulas, qui a quand même énormément de qualité, en tout cas de visionnaire, et comme dirigeant, on peut beaucoup lui reprocher, mais là-dessus il est incontestable. Il a aussi su construire, et à chaque fois apporter les modifications qu'il fallait. Et d'ailleurs, après ce titre, Jacques Santini s'en va, il va partir prendre l'équipe de France.
Il reste au club comme directeur technique. Et c'est le fiasco de la Coupe du Monde qui fait qu'il est appelé à la fédération.
Effectivement, il va partir prendre l'équipe de France. Et donc, c'est Paul Le Guen, lui, qui va reprendre l'équipe, qui va changer le système de jeu, qui va apporter, on en parlait avant l'émission, un nouveau système pour Juninho, qui va pouvoir prendre toute sa dimension. Et c'est comme ça, en fait, encore une fois, que c'est construit Lyon. Ce titre de 2002, même s'il se joue sur un match, dans une ambiance de fou qu'on n'avait jamais vue à Gerland, c'est tout sauf le fruit du hasard.
Enfin, c'est vrai ce que dit Geoffroy, mais il y a des choix qui étaient risqués quand on les juge sur le moment. C'est-à-dire que Santini, il est directeur technique du club. Finalement, il met le survêtement, entre guillemets, pour devenir entraîneur. C'est déjà hyper risqué. Aujourd'hui, quand un directeur sportif devient entraîneur, tout le monde dit « Ouh là là, c'est quoi ce truc ?» Voilà. Donc c'était quand même risqué que Santini fasse ça. Et au moment où il est champion, on lui dit « C'est bon, tu redeviens directeur technique, on va chercher un autre entraîneur. » Alors on sait que derrière, ça a marché avec Le Guen et tout. Mais il y avait quand même du management qui paraissait risqué, en tout cas.
Mais il avait senti ça, Aulas, qu'il fallait changer régulièrement.
C'est surtout que c'était dans l'ADN du club, c'est-à-dire que Jacques Santini, avant, déjà travaillé au club avec Bernard Lacombe, et que le président, on l'a vu, il n'aime pas forcément chercher ailleurs un entraîneur. Et ouais, je sais que quand Jacques arrête, c'est parce que lui veut arrêter. C'est pas le président qui dit il faut que tu arrêtes, c'est lui, il veut arrêter parce que pour lui, c'est pas son rôle. Il l'a fait pendant un an, ça lui suffisait. Mmh. Il veut arrêter. Après, bon, il va en équipe de France parce qu'on connaît la suite. Ouais. Mais il veut vraiment arrêter à ce moment-là.
Et on peut rajouter que Bernard Lacombe aussi, lorsqu'il s'assoit sur le banc, ça n'a rien d'une évidence.
Oui. Non, parce qu'en fait, il remplace Guy Stéphane en cours de saison. Ouais, voilà. C'est un des rares entraîneurs qui a été licencié en cours de saison. C'était Guy Stéphane.
Alors, vous parlez de l'organigramme lyonnais, les chiffres changent, mais pas vraiment le discours bien rodé du président Aulas après la rencontre.
Ça fait maintenant 7 années sur 8 que nous jouons la Coupe d'Europe et nous jouerons pour la troisième fois de suite la Champions League. Donc je crois que c'est une consécration. Ça fait des années qu'on court après, mais grâce aux joueurs et surtout grâce à Jacques Santini, on est champion.
On entendait déjà l'ambition lyonnaise du président Aulas, Sidney, à ce moment-là.
Bah, il l'a toujours dit, il a dit son ambition c'était d'avoir un club stable mais dans le haut du tableau, c'est-à-dire participer aux Coupes d'Europe chaque année. Donc à partir de, ça avait déjà été le cas avant, parce que ça fait déjà 3 ans je crois que l'OL participe à la Coupe d'Europe, donc là forcément c'est dans la continuité de ce qu'il avait prévu.
Et ça va aller jusqu'à 12, hein, puisqu'on rappelle que Lyon a fait 12 fois consécutivement la Ligue des Champions jusqu'en 2012, c'est-à-dire encore 10 ans, ça va durer encore 10 ans. Moi je voulais juste rajouter une petite, ce match, il faut avoir une petite pensée pour Marc Vivien-Fouet, qui était donc dans l'effectif lyonnais, qui était je crois suspendu pour ce match, qui ensuite est parti à Manchester City, et qui est revenu avec le Cameroun pendant la Coupe des Confédérations et qui, malheureusement, est décédé d'un infarctus à Lyon, dans ce stade même, ouais, un an plus tard.
Un petit mot de Lens aussi, messieurs, puisque à l'extase des Lyonnais s'oppose évidemment la tristesse des Lensois qui ont perdu ce championnat après avoir longtemps, longtemps mené. Guillaume Varmus, qui a été malheureux pendant cette rencontre, répondait aux questions des envoyés spéciaux de Canal.
Je crois que c'est pas ce soir qu'on perd le titre. Je crois que c'est il y a un mois quand on avait la possibilité, notamment chez nous, de gagner, de battre Lorient, mais c'est 3. On s'est fait accrocher contre ces équipes-là et on a laissé la possibilité aux Lyonnais de revenir.
Bah, il a raison, hein. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où Lens se laissait enfermer dans cette finale, le destin était écrit.
Vous étiez sûr de revenir une fois que vous avez vu dans les 31, 32e, 33e journée des Lensois qui patinaient contre des équipes à leur portée à domicile,
Surtout que c'était étrange parce que nous on s'attendait à ce qu'ils perdent pas de points à ce moment-là, mais plus pendant la CAN, parce qu'il y a eu la CAN au mois de février. Ils avaient beaucoup de joueurs à la CAN justement, et on s'était dit bon, c'est peut-être là qu'on va grappiller des points. Finalement on n'a pas grappillé là, on a grappillé après, là on pensait les voir plus forts. Donc on se dit voilà, c'est pas possible autrement.
Deux nuls et deux défaites quand même sur les six matchs qui précèdent ce match,
Geoffroy.
C'est, je pense, un cauchemar pour Joël Muller. Donc on le redit, donc 4 ans plus tard, 4 ans plus tôt, il connaît exactement le même scénario. Mmh. Il entraîne Metz à l'époque, ils se font rejoindre in extremis. Et là, lui quitte Metz l'été d'avant, après 12 ans sur le banc du club lorrain. Ils partent comme des bombes. Après la 19e journée, ils ont 8 points d'avance sur Lyon, parce que Lyon compte un match en retard. Et donc, il va perdre le titre à la dernière journée pour la deuxième fois de sa carrière. Mais puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, Metz, sans Muller, descendra pour la première fois depuis 35 ans en D2 à la fin de la saison.
Et un dernier mot peut-être de mise en perspective, hein, c'est qu'on est en mai 2002. Tout le monde s'avance fleur au fusil vers la Coupe du Monde, dont on est tous persuadés qu'elle va être brillante pour l'équipe de France. Tout le monde rappelle qu'il y a le meilleur buteur du championnat de France, Djibril Cissé, qu'il y a le meilleur buteur du championnat d'Italie, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre, et je crois le meilleur buteur du championnat d'Allemagne, peut-être, je me trompe.
Enfin, Angleterre-Italie, mais c'est
voilà, bien. On est trop fort, on va gagner, on va être champion du monde, et ça va être un fiasco.
Bah, Zidane va se blesser.
Le 26 mai.
Contre la Corée du Sud.
À jamais les premiers, ces Lyonnais-là, et notamment Sonny Anderson, qui était arrivé 2 ans auparavant pour gagner ce championnat et pour un montant record.
On va rentrer dans l'histoire du club d'être champion. C'est fantastique, je crois que c'est. Pour le club, c'est le premier. L'année dernière, on a gagné la Coupe de la Ligue cette année. On a le lancé, on est champion. Et c'est mieux, on est champion à la maison.
Sonny Anderson, c'est le symbole de cette nouvelle politique lyonnaise qui veut aller tutoyer les sommets à l'époque.
Ouais, exactement. Il a joué, il a fait passer un gap, quoi. Voilà, c'est quand Jean-Michel Aulas décide de l'acheter, il casse sa tirelire avec une somme qui nous paraît dérisoire aujourd'hui. Je l'ai pas en tête, mais
120 millions de francs.
Combien?
120
millions de francs. Donc voilà.
17 millions d'euros.
J'avais dit d'euros.
Voilà. Donc, mais effectivement, Lyon fait un gros investissement en disant on va prendre ce joueur qui était à Barcelone, je crois.
Il joue,
voilà, qui a réussi à Marseille très rapidement et à Monaco, et voilà, et il joue gros là sans le faisant venir, et effectivement Anderson va faire passer un cap à l'OL en faisant des saisons fantastiques.
Geoffroy.
Non, mais ça, encore une fois, ça vient légitimer la stratégie, la vision de Jean-Michel Aulas. Depuis Roger Rocher avec Saint-Etienne dans les années 60-70, on n'avait pas vu un dirigeant aussi visionnaire, aussi couronné de succès, aussi engagé dans un club sur le long terme. Et je suis même pas sûr qu'on le revoie à nouveau, parce que Je pense que ce qu'il a fait est vraiment unique en termes de stratégie, de patience et de réussite.
Le dernier mot pour vous, Sidney, est-ce que 17 ans après, vous avez conscience que vous avez marqué l'histoire de Lyon, certes pas votre carrière, mais surtout par rapport à cette rencontre face à Lens?
Forcément, vu le nombre de fois où on m'en parle, c'est que ça a marqué les esprits. Même ceux qui n'étaient pas nés ont des souvenirs, entre guillemets, via Internet ou via les parents. Donc oui, aujourd'hui, même nous, quand on se rencontre, il y a pas mal de Lyonnais de cette époque-là qui habitent encore à Lyon et on en parle régulièrement. Donc vraiment, on sait qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous, ce Canal Football classique consacré à la finale entre Lyon et Lens en 2002. Merci également à Faisal Berkani, Lucas Busutil qui ont préparé cette émission, disponible en podcast et sur MyCanal.